L'Entrebisto, c'est avec Charlie sur Radio Languedoc.
Plus d'abeilles, plus de vie. En effet, les abeilles sont essentielles à nos écosystèmes et leur rôle est déterminant dans la production alimentaire. Et malheureusement, les abeilles ont un féroce prédateur, son nom, le frelon asiatique. Pour en parler sur Radio Languedoc, nous sommes en compagnie d'Alexandre Giora. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour, merci de me recevoir.
Avec plaisir. Dites-moi Alexandre, vous êtes ingénieur du vivant, entrepreneur, apiculteur amateur et vous développez à Toulouse une muselière électrique intelligente capable de détecter et neutraliser le frelon asiatique à l'entrée de la ruche. Alors, avant de découvrir ce dispositif innovant, parlons de ce fameux frelon asiatique. D'où vient-il ?
Alors, tout simplement, depuis une vingtaine d'années, on a vu arriver sur le territoire français et maintenant européen un prédateur des abeilles qui s'appelle le frelon à pattes jaunes, le frelon asiatique, Vespa velutina pour ceux qui parlent latin. Et ce prédateur aujourd'hui cause un certain nombre de dégâts auprès des apiculteurs. On considère qu'on n'arrivera plus à l'éradiquer et donc il faut désormais vivre avec. Donc, les apiculteurs, depuis un certain temps, ont déjà mis en place tout un tas de pièges, d'inventions pour essayer de lutter contre sa présence. Et malgré tout, aujourd'hui, il continue de faire des dégâts. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me pencher sur le sujet pour essayer de trouver une solution alternative à ce qui existe aujourd'hui, de manière peut-être un peu plus ciblée, un petit peu plus efficace. Alors, pour bien comprendre, le frelon asiatique, c'est comme le frelon européen il y a quelques centaines, quelques milliers d'années. Il est arrivé sur notre territoire. Simplement, pour le frelon européen, les abeilles ont réussi, grâce au temps, grâce à l'évolution, à trouver un système de défense. Simplement, le frelon asiatique, lui, il est arrivé tellement récemment que les abeilles n'ont pas réussi d'elles-mêmes à trouver une manière de se protéger contre lui. Le frelon asiatique, son comportement est assez atypique, assez unique. Il chasse en vol stationnaire, c'est-à-dire qu'il va venir devant la ruche, devant la planche d'envol, comme un hélicoptère en position stationnaire, et il va attendre les abeilles qui passent et les attraper au fur et à mesure. Et de ce fait, les abeilles ne savent pas comment réagir.
Et donc oui, je vous en prie.
Alors oui, du coup, souvent les apiculteurs, ils sont agacés par ça, ils ont l'impression de perdre beaucoup d'abeilles à cause du frelon qui vient les manger. Mais ce n'est pas tant le fait que le frelon attrape les abeilles et les mange ensuite qui détruit les colonies, c'est la présence du frelon devant la ruche qui stresse les abeilles. C'est plutôt le stress causé qui va enclencher le déclin et la dégradation d'un essaim, parce que les abeilles ne vont plus sortir, elles ne vont plus s'alimenter, elles ne vont plus boire. Il va y avoir un ralentissement de la ponte, voire même un arrêt de la ponte, et mécaniquement, pour un peu qu'il y ait eu une floraison tardive ou une météo un peu capricieuse, bon, les abeilles ne survivront pas à l'hiver. Donc, pour essayer d'illustrer ça, il faut imaginer qu'un nid de frelons moyen va représenter à peu près 6000 individus, 6000 frelons.
Ah oui.
Et il faut 10 frelons simplement pour décimer une colonie de 30 000 abeilles.
Ah, c'est énorme.
Donc, c'est énorme. On comprend bien que c'est un combat perdu d'avance. On peut attraper des centaines, des milliers de frelons. Il en faut que 10 pour détruire toute une colonie. Donc, nous, avec l'invention God Save the Bee, on a fait un petit pas de côté en se disant, ok, l'objectif, c'est pas capturer ou tuer le frelon. L'objectif, c'est le maintenir à une certaine distance de la planche d'envol pour que les abeilles ne stressent pas et continuent leur travail. Et pour ce faire, eh bien, on installe ce qu'on appelle, nous, une muselière électrique intelligente. Il y a un petit capteur, en fait, placé sur une sorte de grillage qui vient détecter le frelon. Quand le frelon s'approche trop près, il est percuté par un arc électrique et soit il meurt, soit il comprend et il reste à distance. En revanche, les abeilles, elles peuvent circuler à travers ce dispositif qui ne présente aucun obstacle pour elles, pour leur travail. Et donc, même en présence du frelon, les abeilles vont pouvoir continuer de faire leurs allers-retours.
Et vous, en tant qu'apiculteur amateur, combien d'essaims perdus chaque année?
Alors, bon, j'ai un petit rucher.
Oui, un petit rucher, oui.
Tous les ans, je perds 70 à 80% de mes ruches. L'année dernière encore, j'étais avec ma raquette de badminton devant mes ruches à travailler mon coup droit pour essayer d'empêcher les frelons de s'approcher. Et puis, c'est là où j'ai eu la révélation. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas rester là tout l'automne. Et puis, malgré mes actions, malgré tous les pièges disposés autour du rucher, je continue de voir le déclin de mes colonies. Donc, c'est bien que le problème, il n'est pas là. Il n'est pas dans le fait d'attraper les frelons. Donc, en réfléchissant, me rapprochant d'entomologues spécialistes du frelon asiatique, en rapprochant d'apiculteurs, j'ai interrogé plus de 200 apiculteurs, amateurs professionnels, j'ai collecté des données en lisant un certain nombre d'articles, de bibliographies dessus. Bon, mais il m'est venu cette idée-là de maintenir le frelon à une distance. Il y avait un objectif qui était assez clair aussi, c'était d'avoir un système sélectif. Aujourd'hui, sur le marché, il y a très peu de systèmes sélectifs. Dans les pièges, j'attrape des papillons, des cirfes, des guêpes, des abeilles parfois. Alors, l'objectif pour moi, c'est pas d'abîmer la biodiversité, c'est juste d'empêcher le frelon de s'approcher. Donc je suis pas favorable à tous ces pièges. Et pour créer la sélectivité de notre système de muselière électrique, on a une détection du frelon qui se fait par une intelligence artificielle. Donc, dans le capteur qui est fixé sur la muselière, il y a une sorte de caméra qui vient détecter en temps réel la présence du frelon asiatique et uniquement le frelon asiatique. Donc, elle va épargner tous les autres insectes. Et donc le système en fait est extrêmement simple. Vous pouvez aller le visionner sur mon site qui s'appelle www.godsavethebee.fr. God Save the Bee, c'est le nom du projet. On voit des vidéos de la muselière électrique en action où on voit bien que les frelons n'osent pas s'approcher ou s'ils approchent, eh bien ils sont percutés par un arc électrique. Donc le système est extrêmement simple, il se fixe en quelques secondes sur la ruche. Il y a un bouton on et puis terminé, on ne s'occupe plus de rien. Le capteur n'a pas besoin d'être connecté à Internet, c'est toute l'innovation de notre intelligence artificielle, c'est qu'elle fonctionne localement, directement dans la machine. Donc le traitement de l'information, on n'a pas besoin d'être délocalisé dans des data centers ou dans des clouds quelconques. Non, ça se fait vraiment localement. Ça traite des informations très complexes, mais comme la reconnaissance du frelon asiatique en temps réel, et c'est extrêmement frugal. Le système est uniquement alimenté par une pile et un petit panneau solaire qui vient prendre le relais quand il n'y a plus d'énergie. Pour donner un élément de comparaison, puisqu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ChatGPT va consommer 97% de ressources énergétiques en plus que notre modèle d'IA. Et ce qui fait que on a un modèle d'IA extrêmement frugal que l'on peut se permettre d'embarquer dans du petit matériel électronique.
Et ce fameux frelon asiatique, il n'y a pas d'espèce naturelle pour les combattre? Il n'a pas de prédateur présent dans la nature?
Alors, si on
parle souvent des poules ou je ne sais trop quoi.
Exactement, voilà. Ben, pour ceux qui ont un poulailler près des ruches, ben, on observe que les poules elles vont venir les manger de manière assez opportuniste. Les canards aussi, j'ai observé ça. On a des martres qui montent dans les nids à la fin de l'automne pour aller manger les quelques larves qui restent. Donc, il y a des prédateurs, il y a des mésanges, il y a des oiseaux, mais ça reste anecdotique. La prévention la plus efficace, c'est la destruction des nids. Mais malheureusement, ça demande un savoir-faire, une formation, et puis ça a un certain coût que ne peuvent pas se permettre tous les apiculteurs.
Alors Alexandre, avec votre expérience apiculteur et puis le constat scientifique, qui c'est quand même sans appel, le frelon asiatique, de toute façon, il est là depuis 20 ans, une vingtaine d'années, on ne pourra plus l'éradiquer, hein, on ne pourra plus éradiquer cette espèce qui se reproduit et qui a investi tous nos espaces, et il faut désormais apprendre à vivre avec lui.
Oui, c'est exactement ça. En mars dernier, il y a une loi qui a été qui est passée pour essayer d'endiguer la présence du frelon asiatique. Alors, en tout cas, la limiter, parce que les études scientifiques montrent que voilà, on ne sera plus en capacité d'éradiquer. Le frelon s'est tellement adapté à nos climats qu'aujourd'hui on ne peut plus le fuir. Jusqu'à encore quelques mois, peut-être quelques années encore, les apiculteurs professionnels fuyaient le frelon asiatique en transhumant les ruches en altitude, dans les montagnes, au-delà de 2000 mètres. Maintenant le frelon il y est. On pensait qu'il n'allait pas aller dans les zones froides, maintenant on le retrouve un peu partout dans le nord de l'Europe. Donc voilà, c'est un animal, un insecte qui est extrêmement adaptable et qui va en France trouver les ressources qu'il lui faut pour proliférer, étant donné qu'il n'y a pas de grands prédateurs.
Eh bien Alexandre, je vous propose, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après sur Radio Lingodoc.
Moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
De retour sur Radio Linguedoc, nous sommes en compagnie d'Alexandre, ingénieur du vivant, entrepreneur et apiculteur amateur, avec qui nous parlons de la problématique abeille frelon asiatique. Et vous, Alexandre, vous avez opté pour une approche différente, le projet God Save the Bee. Alors, comment avez-vous impulsé ce projet? Vous n'êtes pas seul hein, dans cette aventure.
Non, et heureusement, je suis accompagné de deux spécialistes de l'informatique et de l'intelligence artificielle. C'est grâce à eux qu'on doit notre innovation et la nouvelle architecture d'IA de troisième génération, on peut dire, qui a été inventée. C'est une IA qu'on dit neuromorphique, qui s'inspire du fonctionnement du neurone et qui a plein de propriétés, notamment la frugalité, ce qui permet ce qui nous autorise à l'embarquer dans l'électronique, dans la robotique de manière générale, avec un cas d'usage qui est très parlant, c'est les frelons, celui du projet God Save the Bee, qui permet de détecter le frelon asiatique en temps réel devant les ruches pour le neutraliser. Aujourd'hui, le dispositif God Save the Bee, il est développé aussi au contact des apiculteurs amateurs et professionnels, puisqu'on continue d'être de questionner, de tester le projet, de tester les dispositifs, et donc c'est une évolution permanente. On peut le précommander sur le site godsavethebee.fr. Il est précommande pour une livraison au printemps été 2026 de cette année. Donc c'est une équipe, c'est un travail collaboratif.
Ça fait combien de temps que vous gambergez sur ce projet?
Alors l'application de notre intelligence artificielle sur le projet God Save the Bee, elle est née il y a un an, mais la technologie était déjà mature, puisque ça fait déjà plusieurs années, presque 5 ans qu'on travaille dessus. Donc, il faut bien comprendre, Naturalink a pour objectif donc c'est le nom de l'entreprise, hein, Naturalink, oui. A pour objectif de mettre cette technologie à disposition des industriels, quel que soit le secteur d'activité, des ingénieurs, des développeurs, pour que eux-mêmes puissent développer des cas d'usage pour résoudre des problèmes où on a besoin de l'IA. Et en démonstration, voilà, on a fait le projet God Save the Bee pour montrer ce qu'on est capable de faire avec notre technologie, avec notre innovation.
Et donc cette idée, elle est quand même, elle est assez technique, hein. C'est plutôt, enfin, un combo entre les nouvelles technologies, vous le disiez, l'IA, et puis également un engagement au niveau de l'environnement qui est assez fort, hein.
Oui, c'est au niveau technologique, c'est ce qu'on appelle de la deep tech. On oui. est sur une innovation de rupture. Mais on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne pour l'utiliser quand on est apiculteur, par exemple, hein, comme je disais.
Oui, c'est simple.
Oui, les apiculteurs n'ont qu'à
appuyer sur le petit bouton.
Fixer voilà la muselière et appuyer sur le bouton on et puis terminer. Hein, ils s'occupent plus de rien. Donc en soi, c'est une manière pour nous de mettre au service de la biodiversité, de la nature, la technologie, de réconcilier un petit peu les deux, parce que c'est compatible en fait quand on a l'objectif de résoudre des problèmes, enfin simples en apparence, mais surtout très concrets.
Alors l'enjeu principal aussi, c'est la technique hein, pour assurer la fiabilité du dispositif en conditions réelles. Vous en êtes où là? Là, c'est après prochaine étape, la commercialisation, j'imagine.
Exactement. Donc les prototypes ont déjà été validés sur des ruchers depuis ouais. quelques mois. Là, on est toujours en train de tester des améliorations de nos prototypes sur des ruchers, mais en Indonésie, puisque en ce moment c'est l'hiver en France, on voit plus beaucoup le frelon asiatique, et donc il nous faut quand même continuer de tester en attendant. Donc un de mes collègues est en Indonésie pour mettre le dispositif God Save the Bee sur des ruches indonésiennes et continuer d'expérimenter. On a déjà plusieurs centaines de précommandes
en France, alors
de la muselière voilà pour la France, la muselière God Save the Bee, et donc oui, c'est vendu à moins de 50 euros sur le site, 49 euros, Et donc, on peut s'équiper pour être prêt à la saison 2026.
Et vous visez aussi l'exportation, j'imagine, si votre invention est reconnue et fonctionne assez bien en France.
Oui, alors bien sûr, tous les apiculteurs européens qui sont confrontés au même problème peuvent s'équiper de la muselière. Alors les apiculteurs professionnels, ils vont peut-être être un peu moins concernés dans la mesure où quand il y a un nid de 6000 frelons à côté d'un rucher de plusieurs centaines de ruches, eh bien le risque va être dilué. En revanche, quand on est un apiculteur amateur, qu'on a 15-20 ruches, quand il y a un nid de 6000 frelons à côté, on est sûr d'être impacté. Donc oui, le produit s'adresse à tous les apiculteurs, même aux États-Unis, pourquoi pas, là où on n'a pas encore de solution.
Eh bien, Alexandre, vous nous rappelez votre site si on veut avoir plus d'infos et si on veut commander ce fameux projet God Save the Bee. Vous êtes à Toulouse, hein, d'ailleurs, non?
Oui, c'est exact. Ouais. Je suis en Occitanie, à Toulouse, et il est tout à fait possible d'aller visiter le site godsavethebee.fr. Vous verrez une vidéo de démonstration où vous pourrez commander vos prototypes pour moins de 50 euros. Et puis si vous avez des questions, il faut surtout pas hésiter à m'envoyer un petit message via le formulaire, je ferai un plaisir d'y répondre.
Eh bien Alexandre, je vous remercie, moi je remercie Manon à la technique. Cette interview sera à retrouver en podcast sur languedoc.eu. Alexandre, encore un grand merci et bravo pour ce chouette projet.
C'est moi qui vous remercie, et puis à très vite.
À très vite, merci Alexandre, au revoir.
Au revoir.